Chers frères et sœurs et chers amis, ceci est l'étude numéro 6. Nous pourrions donner comme titre qu'il y a trois mots importants qui sont primo, la rémission, secondo, le pardon, et tierzo, l'expiation. Primo donc, la rémission. Le mot rémission est l'un des grands mots de la Nouvelle Alliance. Il veut dire effacer, comme si quelque chose n'avait jamais existé. Lorsque une armée est démobilisée, elle cesse d'exister. Lorsque Dieu remet nos péchés, ces péchés sont effacés comme s'ils n'avaient jamais existé. On ne se sert jamais du mot « rémission » sauf à propos de la nouvelle naissance. Après que nous sommes devenus chrétiens, nos péchés sont pardonnés à cause de notre communion avec le Seigneur et son intercession pour nous. Lorsque nous venons à lui comme pécheurs et nous prenons Christ pour notre Sauveur et nous confessons qu'il est Seigneur, alors tout ce que nous n'avons jamais fait injustement est effacé. Avec la nouvelle naissance, tout ce que nous n'avons jamais été cesse d'être et une nouvelle création remplace l'ancienne création. Si, disons, on peut dire 6 ou 8 fois, il y a le mot « rémission » et il est traduit comme « pardon » dans les Épîtres. Il est dit « en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés ». Éphésiens chapitre 1, verset 7. Il faut donc noter aussi Colossiens chapitre 1, verset 13 et 14, ainsi que Luc chapitre 24, verset 27, et on pourrait continuer dans Actes 2, 38, Actes 26, 18, et Actes chapitre 10, verset 43. Voyez-vous, la rémission de nos péchés remplace le bouc émissaire sous la première alliance. Il emportait leurs péchés une fois par année pendant que le sang couvrait les enfants d'Israël. Sur la base du sang de Christ, nos péchés sont remis et nous sommes une nouvelle création. Nous sommes passés par la nouvelle naissance. Secondo, nous avons le pardon. Du point de vue de la nouvelle alliance, le mot pardon est un mot de rapport et de communion. Lorsque un pécheur accepte Christ pour son sauveur, eh bien, son esprit est recréé, donc né de nouveau. Et ses péchés sont remis, mais quelquefois peut-être il aura la conscience quand même du péché. Donc, sur la base de sa communion avec Dieu et le ministère de Jésus-Christ à la droite du Père, il y a maintenant une base pour le pardon de tout péché qu'il commet. Dans la première épître de Jean, au chapitre 1, verset 2, plutôt, excusez-moi, la première épître de Jean, chapitre 1, ainsi que le chapitre 2. Ces deux chapitres traitent en effet de ce grand sujet du pardon. Lorsque un enfant de Dieu a commis un péché, il interrompt sa communion avec le Père. Il n'interrompt pas sa parenté, heureusement pas, il interrompt seulement la communion, ainsi qu'un mari, par exemple, et sa femme le font au temps quand ils disent une parole peu aimable l'un à l'autre. Ils détruisent ainsi leur communion chez eux, mais ils peuvent la restituer par demander sincèrement pardon l'un à l'autre. Et c'est ce que nous devons faire envers notre Seigneur. Car nous sommes constitués d'une telle manière que nous pouvons pardonner. La même chose est vraie entre un chrétien et le Père Céleste. Le moment où nous péchons et que notre communion avec le Père est interrompue, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1er épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Et ensuite, il est dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, c'est Jésus-Christ, le juste. » 1er épître de Jean, chapitre 2, verset 1. L'expression merveilleuse, le juste, porte en soi une grâce merveilleuse. Et tierceau, nous avons l'expiation. Eh oui, car la première alliance avait la loi qui s'appelait la loi de Moïse, le sacerdoce, les sacrifices et les ordonnances. Car lorsque les enfants d'Israël étaient devenus morts spirituellement et ils transgressaient la loi, il fallait que le sacerdoce fasse une expiation ou une couverture pour eux. Cela ne garantissait pas la vie éternelle. Cela ne pouvait pas avoir lieu jusqu'à ce que Jésus-Christ rachetât ceux qui étaient sous la loi. Jésus-Christ nous dit « Je suis venu afin que vous ayez la vie » et que vous l'ayez avec abondance. Donc, recevoir la vie éternelle, c'est le plus grand événement dans la vie de toute personne. Deux choses étonnantes avaient lieu le grand jour de l'expiation. D'abord, il y avait, entouré de grandes précautions, le souverain sacrificateur qui porte le sang d'un animal innocent dans le sein des saints et il le répand sur l'autel qui couvre la loi transgressée. Et maintenant Israël est couvert par ce sang pour une année. Il est dit dans le Lévitique chapitre 17 verset 11 que le sang est donné pour une couverture ou une expiation à cause de la vie qu'il contient. C'est la vie d'un animal innocent répandu d'une manière typique sur Israël, une nation qui est morte spirituellement, il faut bien le dire. Alors nous avons le bouc émissaire, Aaron. Il met les péchés d'Israël sur la tête du bouc vivant qu'il chasse dans une terre désolée où l'animal sera tué. Les enfants d'Israël, couverts par le sang du bouc, sont libres pour une année et leurs péchés sont donc ainsi emportés. Chers amis, heureusement, nous avons aujourd'hui les bénédictions de la nouvelle alliance, Ça va changer beaucoup de choses. La première bénédiction de l'Alliance est la justice que Dieu donne à chaque membre de la nouvelle Alliance. Lorsque vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur, le moment où vous êtes né de nouveau, à ce moment-là, Dieu vous donne sa justice. Et cela vous donne une position en la présence du Père qui est identique avec la position de Jésus-Christ. Nous n'en avons jamais eu connaissance. Et souvent, nous reculons devant cette grande bénédiction. Et après un peu de temps, la réalisation prendra possession de vous. Vous irez éprouver la bénédiction et il y aura des hommes et des femmes qui commenceront à agir comme Jésus-Christ. Quant à lui, il n'avait pas le sentiment d'aucune infériorité auprès du Père, car il n'avait pas le sentiment de péché. Si vous croyez réellement la Bible, et si vous croyez que Dieu est votre justice, et que vous êtes une nouvelle création créée en Jésus-Christ, eh bien vous aussi, vous n'aurez pas le sentiment de péché. Le Seigneur a fait disparaître le péché par le sacrifice de lui-même et la seule conscience que vous aurez, oui, eh bien, c'est que vous n'avez pas péché et c'est le moment où vous faites quelque chose qui n'a pas de raison d'être, car dans ce cas, vous profiterez du sang de Christ si vous avez péché. Et ainsi de l'intercession du Seigneur Jésus qui intercède pour nous. Autrement, nous n'aurions aucun espoir. Il est donc clair que vous devez également vous humilier et demander pardon. Ce n'est pas quelque chose qui est impossible de faire, d'être le contraire que d'être orgueilleux. S'humilier, c'est au contraire quelque chose qui est important, car en s'humiliant, on peut demander pardon, mais quelqu'un qui est orgueilleux pourra jamais demander pardon. Nous avons trop magnifié le péché, nous avons prêché le diable, nous avons prêché notre propre méchanceté et notre propre injustice. Aucun prédicateur ni laïque n'ose penser de lui-même, excepté sous forme d'un pauvre ver et faible ou de la poussière. Mais ce n'est pas ainsi que Jésus-Christ voudrait que nous nous sentions. Et souvent, nous avons enseigné de l'incrédulité, et souvent, nous n'avons pas enseigné la bonne nouvelle de Christ. Quelle est la bonne nouvelle? Eh bien, voici la bonne nouvelle. À cause du sacrifice de Jésus-Christ, Dieu déclare qu'il est juste et que c'est lui qui est notre justice au moment où nous croyons en Jésus-Christ. C'est donc là la chose la plus étonnante et la plus extraordinaire que peut comprendre l'intelligence de l'homme, que le Tout-Puissant Dieu devient votre justice au moment où vous croyez au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous apprenons à marcher comme Jésus-Christ a marché sans aucun sentiment d'infériorité envers Satan, eh bien, nous aurons la foi qui étonnera absolument le monde. Savez-vous ce qui retarde la croissance de notre foi aujourd'hui? Nous nous approchons du Seigneur, mais nous écoutons le diable avant de le faire. nous nous approchons du Seigneur avec un sentiment de notre infériorité et avec le message du diable nous tintant aux oreilles. Et croyez-moi, par Jésus-Christ, nous n'avons pas à avoir peur de Satan. Nous pouvons dire, croyez-moi, nous pouvons dire que nous sommes libres et que nous osons affronter l'ennemi. La justice de Dieu ne doit plus vous faire peur en la présence de Satan. Mais si vous doutez de l'intégrité de la parole de Dieu, vous tiendrez debout devant l'adversaire sans aucun pouvoir. Or Dieu vous a donné sa justice, non comme une épreuve, mais comme un fait accompli. Et cette grande vérité que Dieu nous fait pour devenir comme lui-même reste au cœur même de la nouvelle alliance. Vous êtes fait à son image et selon sa ressemblance. Et cette image est l'image de la justice. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Lisez Romains chapitre 8, versets 33 et 34. Et une autre bénédiction que cette alliance nous apporte, c'est notre communion avec le Seigneur. Voyez-vous, lorsque Abraham et Dieu ont scellé l'alliance de sang, ils devinrent absolument comme une seule entité. Jésus-Christ nous dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments ». Évangile de Saint Jean, chapitre 15, verset 5. Donc, chapitre 15, verset 5 de Saint Jean. Êtes-vous un associé de Christ, chers amis? Demeurez-vous en Christ? Le Seigneur Jésus-Christ demeure-t-il vraiment en vous? L'apôtre Paul nous dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates, chapitre 2, verset 20. L'alliance de sang renforça la foi de l'apôtre Paul et il a fait de Jésus-Christ sa vie. Maintenant, vous pouvez vous tenir debout en la présence de l'enfer et de Satan. Le Seigneur Jésus-Christ n'a-t-il pas affronté l'ennemi? N'a-t-il pas conquis l'ennemi? Pour nous tous, pourquoi devons-nous avoir peur? Marchons partout comme vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ceux qui appartiennent à Christ sont entrés dans la nouvelle alliance avec Dieu et ils sont devenus hommes de l'alliance. Les hommes de David étaient forts et voyant, et pendant que David marcha à la lumière de l'Éternel, croyez-moi, aucun de ses guerriers n'était jamais tué, parce qu'ils étaient hommes de l'alliance de sang. Chers amis, prenez-vous part à la nature divine? Dites oui, si c'est vrai. Êtes-vous fils de Dieu? Eh bien, je dirai oui. Est-ce que Dieu vous a donné sa justice? Disons oui. Est-ce que Dieu est votre justice? Certainement. Alors, vous a-t-il donné le droit de vous servir du nom de Jésus-Christ? Absolument. Pouvez-vous comprendre la sorte d'homme et de femme que vous êtes maintenant? Vous n'êtes pas un être qui est faible. vous êtes comme le Fils de Dieu. Si vous pensez que vous êtes faible, ayez les regards sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi. Hébreux, chapitre 12, verset 2. Lorsque l'apôtre Pierre commença à marcher sur les eaux pour aller vers Jésus-Christ, tout était fort bien. Mais voyant que le vent était très fort, il a eu peur et, comme il a eu peur, il commença à enfoncer, à se noyer. Il aurait dû ne pas détourner la vue de celui qui est son sauveur, Jésus-Christ. Une chose est absolument certaine, chers amis, la rédemption peut se faire seulement et a lieu seulement par Dieu. Lorsque Dieu vit la condition de l'homme tombé, donc perdu, il commença immédiatement à pourvoir à sa rédemption. Il savait que l'homme ne pouvait pas se racheter par lui-même et il savait que l'homme ne pouvait pas s'approcher de lui. Donc, premièrement, Dieu donna l'alliance à Abraham. Et lorsque les descendants d'Abraham étaient devenus une seule nation, il leur donna la loi de l'alliance, le sacerdoce de l'alliance, l'expiation de l'alliance et les sacrifices et les offrandes de l'alliance. Dieu donna ces choses pour préparer un peuple parce que hors de ce peuple sortait celui qui est le Fils incarné de Dieu et qui allait vaincre Satan. Primo, Jésus-Christ allait racheter l'homme de sa servitude. Il restituerait à l'homme sa justice afin que l'homme puisse se tenir debout en la présence du Père sur le même pied qu'Adam avant sa chute et ainsi ferait disparaître le sentiment de sa culpabilité et de son péché. Et secondo, Jésus détruirait aussi l'autorité de Satan complètement, et il racheterait l'homme totalement afin que le plus faible esclave du diable pourrait participer à la justice restituée pour que l'homme puisse vivre sa vie de victoire en triomphant de Satan. Ce Fils incarné de Dieu allait faire un sacrifice si parfait et si complet que Dieu pourrait restituer légalement à l'homme sa justice perdue et donner à l'homme sa rédemption parfaite. Et à cause de ce merveilleux sacrifice, Dieu peut transformer l'homme et peut faire de lui une nouvelle création. Oui, une nouvelle créature. Figurez-vous un peu tout cela. Dieu nous donne sa propre nature. Vous deviendrez participant de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde, est-il écrit dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 4. La nature de Dieu, grande et glorieuse et merveilleuse, inonde maintenant les âmes des croyants et ils deviennent ses propres enfants bien-aimés. Chers auditeurs, vous êtes en présence du miracle des miracles. C'est la grâce de Dieu qui restitue l'homme perdu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, nous est-il dit dans Éphésiens, au chapitre 2, verset 8. Ainsi, par la justice et la rédemption, Dieu peut aussi donner le Saint-Esprit à tous ceux qui sont devenus participants de la nouvelle création. Le Saint-Esprit, fort et puissant, peut entrer dans nos âmes. Et lorsque nous sommes remplis de l'Esprit Saint, nous pouvons nous élever au domaine d'amour où Jésus-Christ est Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné aussi le droit de nous servir de son saint nom afin que nous chassions Satan et que nous guérissions les malades. Oui, certainement, nous pouvons avoir ce nom qui nous fait ressembler à Jésus-Christ. Lorsque, voyez-vous, vous vivez en ce puissant, merveilleux nom et que vous marchez en ce puissant nom, eh bien le diable ne peut pas vous voir ni vous considérer car vous ressemblez à Christ et vous revêtez sa justice. Donc vous êtes rempli de son esprit car vous portez son saint nom. Et qui plus est, il nous a donné la révélation qui s'appelle la Sainte Parole. Et cette Sainte Parole est la parole de l'Esprit. Et maintenant, par l'intermédiaire des lèvres humaines, le Saint-Esprit manie cette Sainte Parole et conquiert les grandes armées des ténèbres. Voyez-vous, quand nous sommes appelés en communion avec le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes les fils même de Dieu. La justice et la liberté sont restituées. Le Saint-Esprit habite en nous. Et nous avons une communion plus riche que l'homme n'a jamais eue. Et lorsque Jésus-Christ revient, eh bien ce corps mortel aura revêtu l'immortalité et la mort sera engloutie dans la victoire, nous est-il dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 54. Donc, la mort ne peut jamais nous remplir de peur, car nous demeurons fermes dans le Seigneur et remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Également écrit dans Éphésiens, chapitre 3, verset 19. Et selon Éphésiens, chapitre 1, verset 19 à 23, eh bien, chers amis, nous voyons maintenant Jésus-Christ qui est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance. Il a tout mis sous ses pieds. Tout ce qui est sous ses pieds est aussi sous nos pieds, parce que sa victoire est aussi notre victoire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Évangile de Saint Jean, chapitre 3, versets 16 et 17. tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous, il nous l'a offert. Nous n'avons que à le saisir, à le prendre. Dieu n'a pas fait cette œuvre pour la tenir sous clé, cachée dans un coffre-fort. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, pour vous, pour moi, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Et cette justice nous permet de nous approcher avec assurance du trône de la grâce, et ceci afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Hébreux, chapitre 4, verset 16. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains, chapitre 5, verset 1. Par son œuvre sur la croix et sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ a fait la paix. Il est ressuscité parce qu'il a conquis nos ennemis. Il a réduit à néant tous ceux qui nous ont tenus en servitude. Et il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Nous est-il dit dans Colossiens, chapitre 2, verset 15. Nous savons donc que Dieu a fait le plan de notre rédemption. Évangile de Jean, que nous avons déjà cité, chapitre 3, verset 16. Et que Christ l'a exécuté. Éphésiens 1, verset 7. Ainsi que la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 24. La Bible nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Évangile de Jean, chapitre 6, verset 47. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe, chapitre 53, verset 5. L'apôtre Paul. Oui, Paul l'apôtre, il nous a dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par qui ? Par celui qui nous a aimés. Romains chapitre 8, verset 37. Dieu pourvoira à tous vos besoins et vous pouvez tout en celui qui vous fortifie. Il n'y a aucune lutte, ni aucune prière prolongée et déchirante, ni aucun besoin de jeûner pour obtenir Christ. Et voyez-vous, Jésus-Christ nous dit, c'est à moi. Et ce qui est à moi est également à vous. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Comment pouvons-nous donc obtenir ces bénédictions? Mais simplement, en remerciant le Seigneur, les actions de grâce ouvrent complètement la porte et la louange la tient ouverte. Tout est à vous. 1 Corinthiens 3, verset 21. Et Satan est conquis. Donc, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et nous n'avons pas besoin de mendier. Chers amis, nous entrons dans le domaine de l'omnipotence, rempli de celui qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ceci avec la sagesse de lui, notre Dieu Tout-Puissant, qui a fait naître un univers par sa parole et avec le droit de loi de nous servir de son saint nom en toute crise de nos vies. La Bible nous dit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Évangile de Saint Jean, chapitre 14, versets 13 et 14. Cela ne veut pas dire la prière. La promesse de l'usage de son nom en prière est donnée dans les chapitres 15 et 16 de Saint Jean. Mais c'est ce dont l'apôtre Pierre se servit à la porte du temple qui est appelé la Belle. Lisez Actes chapitre 3. Il s'est servi du saint nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas forcément une prière. Il a dit « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » L'homme boiteux de naissance, il s'est levé debout et il s'est mis à marcher. Aucune maladie ni infirmité ne peut résister au nom de Jésus-Christ. En mon nom, ils chasseront les démons. Saint Marc, chapitre 16, verset 17. Ce n'est pas là la prière. Nous nous servons de cette promesse au temps, au moment que nous venons à un homme ou à une femme qui est affligée et sous la servitude de Satan. Et nous disons, au nom de Jésus-Christ, nous vous ordonnons, Satan, de sortir de ce corps et d'amener tout démon avec vous et de retourner aux ténèbres où vous appartenez. Quand nous nous servons du nom de Christ, Satan sait très bien qu'il est vaincu et qu'il doit sortir, il doit s'en aller. Évangile de Saint Jean, chapitre 15, verset 16, nous dit « Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » C'est là la prière. Vous demandez à Dieu de lier les forces qui sont nuisibles. Vous demandez à Dieu de guérir les malades et de changer des circonstances diverses d'une personne. Jésus-Christ prendra soin des choses que vous demanderez en son saint nom. Lisez avec soin l'évangile de Saint Jean, chapitre 16, verset 24 jusqu'au verset 27. Évangile de Jean, chapitre 16, n'est-ce pas? Et vous entreverrez votre droit de loi pour vous servir du nom de Jésus-Christ. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Remarquez que dans ces quatre versets merveilleux, avec ces grandes promesses, le mot « croire » et le mot « foi » ne se trouvent pas. Vous pouvez regarder. Je répète, il est dit « jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Donc, nous pouvons regarder et nous allons remarquer que dans ces quatre versets merveilleux, avec ces grandes promesses, le mot « croire » et le mot « la foi » ne s'y trouvent pas. Nous sommes dans la famille, et parce que nous sommes dans la famille, nous avons le droit de loi à toutes ces choses. Béni soit donc Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Ce que Jésus-Christ a fait, il l'a fait pour nous. Comment pouvons-nous nous servir de ce saint nom? Nous pouvons nous servir du nom de Jésus-Christ en deux sortes de circonstances. Primo, dans la prière au Père. Notez Saint Jean chapitre 15 verset 16. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne, il vous l'accorde. Ensuite, vous avez toujours l'évangile de Jean, mais chapitre 16, verset 23. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Donc, il faut prier toujours au Père en le nom de Jésus-Christ. C'est une ordonnance divine. Votre opinion ou mon opinion ou l'opinion d'aucun autre homme de Dieu ne vaut rien quand vous priez, dites notre Père. Le Seigneur Jésus-Christ se tient debout entre nous et le Père. Ce n'est pas Bouddha ou Mahomet et d'autres éminences qui sont l'intermédiaire, le médiateur. Pas du tout. Il est, lui, Christ, notre médiateur et notre souverain sacrificateur. Il a déclaré que tout ce que nous demandons en son nom, le Père nous le donnera. C'est final, c'est décisif et c'est absolu. Répétons cela. Notez l'évangile de Saint Jean, chapitre 16, verset 23, mais aussi le chapitre 15, verset 16. Donc, chers amis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom, dans le nom de Christ. Donc il faut prier toujours au Père en le nom de Jésus-Christ. C'est une ordonnance divine. Votre opinion ou mon opinion ou l'opinion d'autres, c'est pas eux qui ont raison. Quand vous priez, dites simplement « Notre Père, mon Père céleste, bien-aimé, le Seigneur Jésus se tient donc debout entre nous et le Père. Il est notre médiateur, il est notre souverain sacrificateur. Il a déclaré que tout ce que nous demandons en son nom, le Père nous le donnera, l'accordera. C'est donc final, c'est décisif et c'est absolu. Et secondo, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 13 et 14, il est dit, ici, il nous dit bien comment nous pouvons nous servir du nom de Jésus-Christ dans la guérison des malades ou dans les circonstances adverses ou dans toute autre crise de notre vie. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que l'Église ne se sert pas tellement de ce nom aujourd'hui, mais que parfois rarement, et dans certaines églises, même pas du tout. Actes chapitre 4, verset 13 à 22, et l'histoire de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Jean, qui étaient mis en jugement devant le Sanhédrin, parce qu'ils eurent guéri le boiteux en se servant du nom de Jésus-Christ. Mais comme ils voyaient là tout près d'eux, l'homme qui avait en effet été guéri, ils n'avaient rien à répliquer, mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, il faut tellement faire attention. Défendons-leur donc, avec beaucoup de menaces, de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Ça veut dire dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi cela? Ils ne s'opposèrent, il me semble, pas du tout à la doctrine de la résurrection ou de la nouvelle naissance. Mais ils s'opposèrent à l'usage du nom de Jésus-Christ parce qu'il avait le pouvoir de la guérison en ce nom-là. Or, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et selon Hébreux chapitre 13, verset 8, il est bel et bien dit qu'il ne change pas et qu'il n'a pas changé dans notre dispensation actuelle. Il y a autant de pouvoir en ce nom qu'il y avait de pouvoir autrefois quand il était parmi nous. Ce n'est pas un problème de la foi, mais c'est un problème d'oser, oui, de prendre la décision, d'oser imposer les mains aux malades et de les voir guérir. C'est un problème, tout simplement, d'oser, un problème de foi, prier au Père en ce merveilleux nom, et des miracles seront le résultat de cette prière. Donc, tenons ferme au droit de l'alliance de sang. Et osons-nous servir du saint nom de Jésus-Christ. Chers amis, avant de terminer, voyons ensemble quelle est la signification de la doctrine de la table du Seigneur. Il y a deux grands traits caractéristiques du Père et de Jésus-Christ. Dieu est amour et il est aussi un Père. Il a fait naître l'univers et quand l'homme s'égara, l'Éternel croyait que son amour pourrait le rappeler. Il l'a fait devenir une nouvelle création et il l'a rendu victorieux. Il croyait que les hommes marcheraient en amour l'un avec l'autre. Dieu est Père et Jésus-Christ est semblable à son Père. Jésus-Christ a introduit l'amour au monde. Il est venu pour introduire son Père, et son Père est amour. C'est une introduction à une nouvelle sorte d'amour pour la race humaine navrée et perdue. L'amour est le seul appel universel à l'homme. L'amour est un appel au cœur. La foi est un appel à l'imagination, mais l'amour est le vrai appel. Jésus-Christ a tant aimé qu'il a en effet versé son sang précieux, sa vie, pour nous. Jésus-Christ crut ainsi que auprès du Père, il y avait tout le bonheur et toutes les possibilités, car il le savait. Il n'a pas seulement cru, il savait. Et il a cru qu'il devenait le substitut pour l'homme. Donc, l'homme réagirait et le servirait. Donc, s'il pouvait démontrer au monde qu'il a vraiment tant aimé les hommes, qu'il est mort pour eux et qu'il a souffert les tourments des damnés pour eux, pour nous, pour moi, alors il y aurait une réponse. Christ a la foi en l'humanité aujourd'hui, malgré tout ce qui s'y passe. Il a la foi en l'Église, malgré que ça va pas très fort. Il a la foi surtout en lui-même et en sa propre parole vivante, qu'elle gagnera les âmes des hommes déchus, des hommes perdus. Il a la foi en son merveilleux amour pour nous gagner par son amour à lui. Donc la table du Seigneur est une confession de notre foi et de notre fidélité à cet amour, ainsi que le don de Jésus-Christ est une confession de l'amour du Père. La venue de Jésus-Christ et son expiation pour nous, c'est une confession de son amour. Jésus-Christ a dit ces paroles significatives. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Saint Luc chapitre 22 verset 20. Et toutes les fois que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, qu'il revienne bientôt. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 26. Lorsque vous mangez le pain et que vous buvez la coupe, vous ratifiez cette alliance. C'est une alliance d'amour. D'abord, c'est votre fidélité et votre amour pour Jésus-Christ. Après, c'est votre fidélité et votre amour pour son Église qui est son corps. C'est une confession de votre amour l'un pour l'autre. C'est une confession que vous avez mangé et bu avec eux, et maintenant vous allez porter leur fardeau. Vous vous êtes identifiés l'un avec l'autre, ainsi qu'il s'est vraiment identifié avec vous dans son incarnation et sa substitution. Cela serait la manière de penser du maître au sujet de la table du Seigneur. Voyez-vous, lorsque je mange le pain et je bois la coupe, je confesse ma fidélité à lui et aussi à chaque membre du corps de Christ qui mange ce pain et boit cette coupe avec moi. Si je suis fort aussi spirituellement, je porte les fardeaux du faible. Je me suis chargé de sa faiblesse. La table du Seigneur signifie que je ne ferai jamais la critique, mais que je prendrai leur responsabilité spirituelle et leur faiblesse. Chers amis, quel est le besoin du temps actuel? J'ai une conviction que c'est ici le message pour l'Église d'aujourd'hui. Pendant les jours inquiets de l'avenir, nous avons besoin de tout ce que Dieu peut nous donner et tout ce qu'il peut être à chacun de ses enfants, et ceci afin que nous subissions toute épreuve qui nous vient et qui vont venir. Donc cette doctrine de l'alliance de sang, cette doctrine de notre rapport avec le Seigneur, ce pouvoir de se servir du nom de Jésus-Christ, cette doctrine merveilleuse de notre identification et de nos privilèges, c'est là le message pour les jours à venir. Il nous préparera à affronter sans peur les forces mêmes des ténèbres. Savez-vous ce que Jésus-Christ dit lorsqu'il a donné la grande commission, la grande mission à ses disciples? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon saint nom, ils chasseront les démons. Cela veut dire que dans les derniers jours, les démons seront bien plus en évidence. En sachant que ces jours sont abrégés, Satan viendra sur la terre avec tous ses démons et nous entrerons dans un temps de terrible lutte spirituelle telle que l'Église n'a jamais vue ni connue. Donc il faut que l'Église apprenne le secret de se tenir fort contre les forces des ténèbres en la puissance, en la toute-puissance du nom du Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, avant de prier ensemble, j'aimerais vous donner quelques paroles d'encouragement aussi. Faites connaître Jésus-Christ aux autres, je vous le demande. Par votre confiance absolue en lui, par votre joie, que ne pourront assombrir les difficultés de la vie, par vos délicates attentions quand il s'agit des faibles et des désemparés, par l'acceptation vraie du don qu'il vous fait de la vie éternelle, par l'épanouissement visible de votre vie intérieure, preuve de son authenticité et seul moyen de la communiquer. Faites-le connaître de plus en plus par votre sérénité, par votre attachement indéfectible à la vérité. Faites-le connaître par l'Esprit qu'il met en vous et que vous devez répandre autour de vous par votre comportement et vos paroles qui doivent témoigner sans cesse de la puissance miraculeuse qui émane de sa présence. Tous alors sauront que vous êtes ses disciples et que vous ne réclamez rien pour vous, même absolument pas pour vous, mais tout seulement pour lui, pour votre Sauveur, Jésus-Christ. Prions maintenant. Nous louons notre Dieu et Père céleste en Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous commençons une nouvelle journée qui nous rapproche de l'instant redoutable où nos âmes nous seront redemandées et paraîtront en jugement devant toi. C'est par nos œuvres, c'est-à-dire par nos actions et nos paroles, que nous pouvons montrer si nous sommes véritablement tes disciples, si nous demeurons en toi, si nous sommes tes rachetés et tes enfants. Aide-nous, Seigneur, à nous juger nous-mêmes, afin que nous puissions reconnaître le véritable état de nos cœurs et que nous puissions te prier selon nos besoins. Tu nous donnes de nombreux avertissements de travailler à notre salut, non seulement dans ta parole, mais aussi par les événements qui, si souvent, nous rappellent qu'il nous faudra bientôt quitter aussi cette vie, car ne voyons-nous pas sans cesse des êtres pleins de jeunesse et de santé, atteints par la maladie et la mort? Puisse chacun de nous se dire « Et moi aussi, je dois mourir. Que deviendra mon âme? Quelle sera son éternelle destinée ?» Ta parole, ô Dieu, répond à ces questions. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu ne verra pas la vie. Puissions-nous donc être tous appelés à croire et à entrer dans le royaume des cieux. Seigneur, écoute les prières que nous t'offrons pour nos parents et nos amis. Protège-nous tous, attire-nous à toi et que ton saint nom soit éternellement béni. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que Dieu vous aime. Tenez-le pour une réalité. Et nous vous aimons également de tout notre cœur. Soyez bénis. Et merci pour l'intérêt que vous portez à ces études pas toujours très faciles. À bientôt à nouveau. Au revoir.